Bienvenue à Oui Dire, histoire qui ne s'invente pas, l'émission qui vous fera découvrir ou redécouvrir des histoires du secteur Maria-Chapdelaine, allant de la légende aux faits historiques improbables en passant par le mythe. À travers cette émission, mon objectif sera de renouer avec la tradition orale, d'aller à la rencontre de personnes qui connaissent les histoires mystérieuses du nord du lac Saint-Jean. Si vous aussi, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à nous suivre à travers les 6 épisodes que nous allons vous présenter, et surtout, gardez l'œil ouvert. Mais avant de plonger dans notre première histoire, j'aimerais vous introduire à quelqu'un qui incarne parfaitement le concept de cette émission, soit les mythes et légendes. Il en a d'ailleurs fait le sujet de son doctorat. C'est vraiment la référence lorsque vient le temps d'aborder l'imaginaire légendaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il sera un collaborateur important tout au long des épisodes et ça me fait plaisir de vous le présenter.
Vous êtes ethnologue.
Je suis ethnologue.
Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement c'est quoi être ethnologue?
Un ethnologue, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'étude, en d'autres termes, comparativement à l'anthropologue, qui, selon Van Gennep, on en reparlera un peu plus tard, devrait s'occuper des sociétés non indo-européennes, l'ethnologue s'occupe des sociétés indo-européennes, mais moi je traduis ça de la façon suivante, c'est l'ethnologue s'occupe de sa propre tribu. Donc je me suis occupé de ma tribu, c'est-à-dire que ça comprend tout ce qui se vit, se dit, se fait à l'intérieur d'une société traditionnelle. Et à cette époque-là, bien sûr, c'était la société rurale. Maintenant, il faut bien aborder le monde urbain aujourd'hui. C'est ce que font les ethnologues d'ailleurs. Mais à mon époque, à moi, on s'occupait encore beaucoup du monde rural et du legs traditionnel que ce monde-là avait laissé finalement à la société québécoise. Mais ça, on s'occupe de quoi? Des rites de la naissance à la mort, des contes, des légendes, des dictons, de toutes ces choses-là, des chansons, tout ce qui de la cuisine, des vêtements, de tout. En d'autres termes, c'est un univers total qui essaie de totaliser le savoir traditionnel d'une société donnée. Et comme on est ethnologue, bien sûr, c'est notre propre tribu qu'on observe et dont on recueille le legs avant qu'il disparaisse, parce qu'à l'heure actuelle, ce legs-là est en train de disparaître. Ou s'il n'est pas disparu, finalement.
Parfait. Maintenant, on va tomber dans le vif du sujet. J'aimerais que vous parliez, que vous nous expliquiez, en fait, quand on parle de mythes et légendes, c'est quoi les différences entre un mythe, une légende, un conte et un fait historique?
Ça, c'est un gros sujet de confusion. Les gens confondent tout. Commençons d'abord par un petit détail. C'est qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je n'ai jamais recueilli de mythes traditionnels de la société, on va dire, d'origine française, c'est-à-dire les Québécois de souche. Il y en a chez les Amérindiens, parce que les Amérindiens sont arrivés bien avant nous. Et bien sûr qu'avant l'évangélisation des missionnaires, ils avaient leur propre rapport au monde qu'ils traduisaient par des narrations. Eux, ils ont des mythes qui vont expliquer l'univers dans lequel ils ont évolué. Nous, on n'avait pas besoin de cette fonction-là parce que l'Église catholique, y pourvoyait, elle avait sa propre mythologie qu'on retrouve dans la Genèse, dans la Bible, et elle ne voulait pas être concurrencée, bien sûr, par une mythologie d'origine traditionnelle ou d'origine populaire, ce qui fait qu'elle interdisait toute tentative de mythologisation de la vie de la part de ses ouailles. Ça fait qu'elle avait la sienne qu'elle imposait d'autorité par son enseignement, par son catéchisme, par son magistère. Donc, je n'ai pas recueilli de mythes. Par contre, les légendes, ça florissait beaucoup parce que on n'avait pas d'interdit face à ces genres de récits-là. Donc là, ici, il faut faire des distinctions beaucoup. On va faire 3 distinctions. C'est qu'il y a des récits qui sont contrôlés. Il y a des récits qui ne sont pas contrôlés. Il y a des récits qui appartiennent, dont les mots mêmes et l'information qui sont véhiculées par les mots appartiennent à la tradition. Par exemple, les comptines. Pierre, ma petite vache à mal aux pattes, tirons-la par la queue, elle ira bien mue. En avant les grosses bedaines, tassez-vous le long du mur, laissez passer les petites bedaines qui vont manger des confitures. Quelqu'un qui va raconter ça, bien sûr, il va utiliser les mots que lui ont légués la tradition à l'intérieur d'une formulation que la tradition lui a aussi laissé. Donc, il n'y a pas le choix. Et si, à un moment donné, il se trompe, eh bien, on va tout de suite le corriger. Si je dis, par exemple, Pierre qui vole n'amasse pas mousse, on va dire non, c'est pas comme ça que ça se dit. On dit Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Donc, ce sont des récits contrôlés. Donc, on va voir les comptines, les dictons, les sentences, les formulettes. C'est quoi des formulettes? Moi, ma grand-mère m'a raconté une. Si pandipandette n'était pas tombée dans l'oreille de dormi-dormette ne serait pas réveillé, courri-courrette, l'aurait mangé. Ça, c'est un petit con. Mais c'est drôle, les enfants le comprennent assez bien. Les adultes ont de la misère à faire, à composer avec ce récit-là. Mais en fait, c'est un conte à trois personnages. Il y a quelque chose qui peint, il y a quelqu'un qui dort, il y a quelqu'un qui mange. Donc, la chose qui peint tombe dans l'oreille de celui qui dort, ça le réveille, ça l'empêche d'être mangé par celui qui court. Donc, on peut le traduire par « si la pomme n'était pas tombée dans l'oreille de Tigeant qui dormait sous le pommier, Tigeant ne serait pas réveillé, puis le loup l'aurait mangé ». Donc, c'est des contes à formulettes comme ça, puis ça appartient à la tradition dans sa formulation et dans l'information qui est véhiculée. Ça, ce sont des récits comme ça. Il y a des récits qui sont dont les mots appartiennent au narrateur. C'est-à-dire que moi, je raconte ça tel que ça me vient, selon mon style à moi, mais l'information ne m'appartient pas, elle appartient à la tradition. On aura les mythes, on aura les contes. Et on va avoir des récits où ni les mots ni l'information n'appartiennent à la tradition, mais appartiennent au narrateur lui-même. On dit que c'est les légendes, mais il faut faire attention. On ne peut pas, dans une société donnée, raconter ou véhiculer n'importe laquelle légende. Et là, je donne un exemple rapidement. Au bal Musette, à Saint-Ambroise, on a raconté que le diable était apparu dans une certaine salle de danse. Si on avait raconté que la jeune fille, ce soir-là, avait vu Bouddha, ça n'aurait pas été une légende, ça aurait été une non-légende, parce que Bouddha n'est pas reçu parmi l'inventaire des objets de croyance au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'affaire. Donc, il y a une sorte, quand même, un encadrement de croyance qui fait en sorte que quand on en déroge, ce n'est pas reçu, c'est éjecté de la tradition. Mais quand on s'y conforme, on peut raconter à peu près n'importe quoi à l'intérieur de cet univers-là. Donc, d'abord, ça, ce sont les trois grandes formes. Maintenant, si on entre un peu plus précisément, c'est quoi un mythe? Un mythe, ça raconte toujours la création de quelque chose. Avant, il n'y avait rien. À partir de tel moment, quelque chose s'est mis à exister. Donc, il y a comme un précédent qui est créé. C'est pour ça qu'on va expliquer comment ces choses-là sont arrivées à l'univers pour la première fois. Ça, c'est les mythes. Dieu créa le monde, en 7 jours ou 6 jours, patati patata. Et ça, ce sont les mythes. Nous, on n'en a pas. Les Amérindiens en ont beaucoup de ces choses-là parce que chaque fois qu'ils arrivent dans un territoire donné, ils doivent expliquer l'origine de ce territoire-là. Et cette explication-là, mise en narration, ça donne un mythe. Il y avait une vieille définition d'un historien romain qui s'appelle Sallust, qui définissait le mythe de la façon suivante. Le récit d'un événement qui n'a jamais eu lieu à propos d'une chose qui existe depuis toujours. C'est parce que ça répondait à un besoin. On voulait savoir pourquoi il le faisait. Comme il n'existait pas cette science qui s'appelle l'éthologie, avec tout l'appareil scientifique qu'il y a derrière, eh bien, il fallait quand même trouver une explication. Et pourquoi il fallait trouver une explication? Parce que le principal rôle du mythe, c'est d'atteindre une sorte d'état de bien-être. On répond à des questions. Et quand on a une réponse, on est comme soulagé parce qu'on cesse d'être angoissé. Enfin, on a une réponse. C'est le but des mythes.
Ça sert à expliquer quelque chose.
Ça sert à expliquer quelque chose, l'origine de quelque chose, d'où ça vient, quelle est son utilité, comment on va s'en servir. Donc, ça concerne tous les aspects de la vie. Et assez curieusement, le mythe n'est pas considéré comme une fiction parce qu'il s'occupe des réalités. C'est vrai que les chiens, ils se sentent là derrière. Mais comment on va expliquer l'origine de ce comportement-là? Ça appartient au mythe. Et ceux qui adhèrent au mythe, ils trouvent une sorte de contentement parce qu'enfin, ils ont une explication. Et c'est mieux avoir une explication des fois qui n'est pas tout à fait vraie qu'une absence d'explication qui va nous torturer jusqu'à notre mort. Les trois grandes questions, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Trouvent toujours pas de réponse. Il paraît qu'il faut mourir pour avoir les réponses. C'est pas tout à fait une belle perspective qui s'offre à nous. Donc, on a à peu près ça dans les mythes. On va dire que les mythes, ils sont considérés dans les sociétés qui les véhiculent comme absolument vrais. Vous allez dire, l'Église catholique, les catholiques n'ont pas de mythes. Faux. Comment je dirais ça donc? Le test qu'on peut faire subir à un catholique pour savoir s'il en est un, c'est la croyance à la transsubstantiation. C'est-à-dire que lorsque le curé dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », ça transforme le pain et le vin au corps et au sang du Christ. Et il est obligé d'y croire à la présence réelle du corps et du sang du Christ dans l'hostie. Et s'il n'y croit pas, il n'est pas catholique au sens dogmatique du terme. En d'autres termes, moi, je me rappelle quand j'enseignais, je posais toujours la question aux étudiants, qui parmi vous croyait à la transsubstantiation? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se levaient. Donc, je leur disais, vous n'êtes pas des catholiques au sens dogmatique, mais au sens du magistère de l'Église catholique. Vous êtes des catholiques au sens sociologique, parce que vous êtes baptisés, vous vous comportez extérieurement comme des catholiques, et votre nom est inscrit dans les registres baptismaux. C'est ça qui fait de vous des catholiques, mais non pas aussi au niveau de la croyance, parce que pour vous, ce n'est pas un fait réel, comme un tout bon catholique devait y croire, mais un fait symbolique. Donc, il y a un peu de ça dans ces choses-là, ce qui fait que, d'ailleurs, dans le petit catéchisme qu'on apprenait par cœur, on nous disait, oui, mais après la prière du prêtre, on remarque qu'il y a toujours une hostie, puis qu'il y a toujours une coupe de vin, on ne voit pas de sang, puis on ne voit pas du corps du Christ. Puis là, il y avait une petite phrase qu'on pourrait dire assassine, là. « Ce que vos yeux ne peuvent pas voir, l'Église vous oblige d'y croire. » Donc, le mythe est considéré comme absolument vrai. Il est absolument vrai parce qu'il concerne des réalités. Le conte, c'est tout à fait le contraire, il est absolument faux. Le conteur, c'est un menteur qui nous raconte des menteries, mais il nous avertit que c'est une menterie. Et comme vous savez que c'est une menterie, quand il raconte sa menterie, il ne nous ment pas. Donc, tout en étant lui un menteur, il ne nous ment pas. Donc, d'une certaine façon, pendant qu'il compte sa menterie, du fait qu'on sait que c'est une menterie, eh bien, on n'est pas induit en erreur. On le sait, il y a une sorte de complicité dans le mensonge qui fait en sorte que pendant l'espace du récit, tout semble vrai. Mais c'est un peu comme quand on va voir un film. Quand on va voir un film au cinéma, si on passe notre temps à se dire « Oui, mais c'est pas vrai, c'est une fiction, ça peut pas arriver », eh bien, on va bouder notre plaisir, puis le film, finalement, va se dérouler sous nos yeux pour rien, parce qu'on n'aura pas participé au plaisir d'entrer dans une fiction. Donc le conte, c'est une menterie. Ce n'est pas vrai, c'est raconté pour le plaisir, ça crée son propre espace, et ça n'a pas d'autre fonction que ça. Tandis que la légende, c'est relativement vrai, ça veut dire que ça peut être relativement faux. Et là, ça va dépendre, bien sûr, là, du, comment je dirais ça, de la notoriété du narrateur. Un narrateur qui est souvent considéré comme un menteur, il aura beau dire la vérité, on ne le croira pas même quand il dit vrai. Il faut toujours se souvenir de la fable, hein, de Guillot qui criait au loup la première fois, la deuxième fois. Le loup n'était pas là, la troisième fois, il y était, mais les gens ne sont pas venus parce que, bon, ils ne le croyaient plus. Il y a un peu de ça là-dedans, là, dans ces choses-là. Donc, la légende, son indice, c'est quoi? C'est la vérité de la légende dépend de la sincérité du narrateur. S'il est en conformité avec ses perceptions, puis il nous les raconte tels que lui les a perçus, il les a vécus, même si ça paraît extraordinaire, on est comme obligé d'y croire parce que lui, il y croit. Sans ça, il ne le raconterait pas. Ce qui fait qu'un conteur, lui, ne cherchera pas son auditoire. N'importe quel auditoire peut écouter un conte parce que tout le monde sait que c'est une menterie. Il y a comme une sorte d'accord qui est fait là-dedans. Tandis qu'un narrateur d'une légende, surtout si le phénomène lui est arrivé personnellement, il ne racontera pas ça à tout le monde parce qu'il a peur de faire rire de lui. Parce que ce qu'il va raconter, c'est quelque chose de dérangeant parce qu'il y a comme une sorte d'incursion d'un univers surnaturel à l'intérieur d'un univers naturel. C'est dérangeant par rapport aux lois de la nature. Puis c'est pas tout le monde qui est vraiment là, disposé à croire ces choses-là. Si moi, par exemple, là, j'ai une apparition de la Sainte Vierge, ben, je n'irai pas raconter ça urbi et orbi, là, comme on dit là, pour l'Église catholique. Là. Je vais choisir celui à qui je vais la raconter, celui qui ne me prendra pas pour un idiot, celui qui, en d'autres termes, a une sorte de confidentialité dans la légende. Ça fait partie des arts de la conversation. On ne raconte pas ça de manière spectaculaire comme un conte, mais c'est au cours d'une discussion, sais-tu qu'est-ce qui m'est arrivé? Je sais que tu ne me croiras pas, mais dis-toi que c'est vrai. Eh bien là, on va se mettre à la raconter parce qu'il y a une complicité quand même qui se crée. On est sûr d'être cru, du moins par la personne à qui on la raconte. Puis c'est sûr que la personne à qui on la raconte, elle, dès lors qu'on lui a livré l'information, on n'est plus maître de l'information qu'on lui a livrée. Elle va s'en emparer. Puis elle va la raconter à une tierce personne qui va la raconter à une autre personne. Il y a donc une sorte de transmission sous sceau de la confidentialité qui devient finalement, à un moment donné, je dirais ça, connu de tout le monde. C'est comme ça que les légendes se transmettent. C'est un peu là, comme, comment je dirais ça, là, c'est de bouche en bouche, d'accord, là, mais il y a une sorte de fraternité, là, moins spectaculaire, puis un peu plus existentielle, là, qui lie le narrateur avec un auditeur. Il y a un peu de ça dans les légendes. Concernant les légendes, il y a un auteur français qui s'appelle Arnold Van Genep, qui, lui, dans les années 1900-1910, a publié un livre qui s'appelle « La formation des légendes », dans lequel il a établi trois lois. Bon, la première, c'est la localisation. On sait où c'est arrivé. La personnification, on sait à qui c'est arrivé. Et la temporisation, c'est vers quelle époque ou à quelle date c'est arrivé. Moi, il m'est arrivé de recueillir des légendes où je savais très bien la date, l'endroit, la personne à qui c'est arrivé. C'est arrivé le 20 août 1949. On sait à quel endroit, c'est dans le rang Saint-André, à Notre-Dame-d'Héberville. C'est arrivé un monsieur Patrie. Puis là, il raconte sa légende. Et lorsqu'on a affaire à une légende, bien sûr, à cause de ces trois lois-là, c'est soit, il y a soit un aspect biographique, c'est-à-dire qu'on raconte quelque chose d'extraordinaire qui met en, comment dire ça, en scène un être humain en relation avec des êtres surnaturels. Ça peut être un loup-garou, ça peut être un fantôme, ça peut être un démon, ou ça peut être un esprit, disons, bénéfique. Donc, c'est un être surnaturel. Ça peut être aussi, comme dans le cas d'un fantôme, un ancien être humain qui est devenu un être surnaturel après le passage obligé de la mort. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. On devient des êtres surnaturels par le passage de la mort, puis on fait partie d'un autre univers. Mais cet univers-là, il n'est pas coupé de l'univers naturel, mais il en est comme le prolongement. Donc, ce serait comme... Comment je dirais ça, donc? La mort serait comme une sorte d'âge de la vie, mais dans un autre univers qui se produirait. Donc là, on a ces trois lois-là, et habituellement, avec le temps, avec la, donc, il y a cet aspect biographique-là, avec le temps, avec la multiplication des narrateurs. Eh bien là, il arrive qu'on perde le nom de la personne à qui c'est arrivé. La date devient plus ou moins floue. Et finalement, la localisation aussi là, devient un peu plus floue aussi en même temps. Ce qui fait qu'habituellement, on raconte une légende qui se délocalise, dépersonnalise, détemporise, qui, à la limite, quand elle est trop bien racontée, s'apparente beaucoup au conte. Ça arrive souvent, ça.
Vous cherchez comment enrichir votre ludothèque? Vous êtes des maniaques de jeux de société ou ça vous intrigue, les maniaques de jeux de société, parce que vous demandez hey, mais comment ils font pour aimer ça? Ben, venez avec nous, venez dans notre cool box. On va apprendre à découvrir toutes sortes de jeux de société et je suis certain que vous allez en trouver un pour vous parce que vous allez regarder à chacun ces jeux.
La ville de Dolbeau-Mistassini ainsi que la MRC de Maria Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en quatre coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2 sous une scène incroyable. Bon match!
Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leurs descendants. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité.
Tu te réveilles encore en sueur la nuit
après des graves cauchemars. En repensant à la saison 2 du vidéo Terreur, quand tu marches le soir dans la rue, tu repenses à tous ces moments glauques dont on t'a parlé dans vidéo Terreur saison 3. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi.
On est en train de tourner vidéo Terreur saison 4. Puis ça va être encore bien plus effrayant. Wow!
La première histoire qu'on vous présente aujourd'hui, c'est justement M. Bergeron qui me l'a raconté lors de nos premiers échanges. Il se l'est lui-même fait raconter par quelqu'un de très proche de l'histoire. Vous allez comprendre un peu plus tard. Cette histoire, elle se passe à Sainte-Jeanne d'Arc, elle se déroule dans les années 20, et écoutez bien, parce que c'est en perdre la tête.
Bonjour, M. Bergeron.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Oui. Merci beaucoup de prendre le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on se retrouve là parce que vous avez une légende à nous raconter dans le cadre de cet épisode de Oui Dire. Avant qu'on plonge dans cette légende, vous m'avez mentionné dans le cadre de nos échanges que c'était une légende familiale.
Oui.
En quoi ça consiste? C'est quoi les spécificités d'une légende familiale?
Bon, ce qui est spécifique à une légende, d'abord, ce sont des caractères généraux. Il faut savoir à qui c'est arrivé, où c'est arrivé, quand c'est arrivé. Donc, ça s'inscrit toujours dans l'espace-temps, soit d'une localité, soit d'une famille, soit d'un individu. Ensuite de ça, bien, une légende, habituellement, a un caractère biographique au sens où c'est arrivé à quelqu'un dans sa vie à lui, où il raconte, où est raconté, son comment dirais-je, donc, ses contacts avec des gens qui appartiennent à l'univers surnaturel, ou des êtres ou des entités. Et ça peut être aussi autobiographique au sens où c'est arrivé à la personne même à qui c'est arrivé. Donc là, on a affaire non pas à l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'eau, ce qui fait beaucoup d'hommes entre moi et l'eau, ce qui fait qu'entre-temps, l'eau peut prendre des proportions assez extraordinaires. Là, on a affaire à l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'eau. Donc là, ici, la distance est très courte, donc il y a moins de perturbations dans le récit qui va nous être livré.
Parfait. Donc, c'est l'histoire du cavalier sans tête de Sainte-Jeanne d'Arc.
Oui.
Sans plus tarder, en fait, je vous laisserai nous raconter l'histoire. Bon. Ensuite, on aura la chance d'en parler un petit peu.
D'accord. C'est une très belle légende, d'ailleurs, qui répond exactement aux lois de M. Van Genec, aussi à qui c'est arrivé, où c'est arrivé, quand c'est arrivé. Où c'est arrivé, c'est à Sainte-Jeanne d'Arc, bien sûr. On dit dans les années 1920-1925, déjà, on a la date. Et c'est un père qui a trois garçons et qui défriche un lot entre, dit la légende, le rang 6 et le rang 8. Donc, ça doit être probablement le rang 7 à Sainte-Jeanne d'Arc. Le père aussi vend des terres, il vend des chevaux, donc c'est un maquignon. Et là, il s'est installé avec ses trois garçons. Et là, à un moment donné, il dit à ses enfants, il faut que j'aille à Saint-Bruno. Comme il voyage à cheval, ça peut prendre jusqu'à 2 ou 3 jours, donc il va être 2 ou 3 jours parti. Il demande à ses enfants s'ils sont capables de continuer le travail à eux tout seuls. Bien sûr que oui, parce qu'à cette époque-là, il faut dire qu'il n'existait pas telle chose qui s'appelle l'adolescence. Les gens passaient exactement de l'enfance à l'âge adulte parce qu'ils travaillaient très, très fort. Donc, le père part. Le soir où il est parti, les enfants sont en train de souper dans le camp. Et là, à la Brunande, ils entendent des bruits d'un cheval qui s'en vient vers le camp. Le cheval arrive, passe devant le camp. Il y avait un petit ruisseau qui séparait le camp d'une sorte de petite écurie ou de petite grange. Le cheval franchit le ruisseau, arrive devant le camp. Et là, les enfants s'aperçoivent, bien sûr, qu'à la lumière d'un fanal, que le cavalier qui monte le cheval n'a pas de tête. Et là, le cavalier arrête le cheval, il crie « wow », le cavalier disparaît. Et ce qu'ils entendent, finalement, c'est des murmures autour du camp. Mais comme ils sont tellement effrayés, ils n'osent pas aller vérifier qui produit ces murmures-là. Fait qu'ils se barricadent dans le camp, puis là, ils passent une nuit plus ou moins, remarquez bien, terrorisés par les événements qu'ils ont vus. Voir un cavalier sans tête, c'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait ordinaire. Le lendemain, bien sûr, ils travaillent toute la journée, arrivent encore le soir à l'heure du souper, toujours la Brunande. Et bien, ils entendent exactement le même bruit de cheval qui s'avance. On entend le bruit des sabots là, qui martèlent finalement le rocher. Le cheval, encore une fois, est monté par un cavalier sans tête, traverse le ruisseau, arrête devant l'écurie, disparaît. Les enfants l'ont vu toujours, bien sûr, ils sont encore effrayés, et ils entendent au même moment des murmures autour du camp. Fait que là, ils n'osent pas aller voir. Encore une fois, ils s'enferment dans le camp pour la nuit. Le troisième jour, c'est exactement la même affaire. Le cheval arrive toujours à la Brunande, monté par son cavalier qui n'a toujours pas de tête. Les enfants regardent. Ils n'arrivent toujours pas à reconnaître quel pouvait être ce cavalier-là. Le cheval, encore une fois, franchit le petit ruisseau, arrive devant l'écurie. Et là, encore une fois, disparaît. Ils entendent toujours des bruits, des murmures, des chuchotements autour du camp. Ce qui fait qu'encore une fois, ils passent une nuit plus ou moins inquiète par rapport à tout ces événements-là. Ça fait quand même 3 fois que c'est arrivé. Si c'est arrivé qu'une seule fois, encore pourrait-il se dire qu'ils ont été victimes d'hallucinations, mais ça aurait été comme une hallucination collective, ce qui est quand même, disons, assez rare. Ce qui fait que le lendemain, bien sûr, c'est le quatrième jour, le père arrive. Là, rien de plus pressé pour les enfants de raconter à leur père qu'un cavalier sans tête se promène le soir à la Brunande depuis qu'il est parti. Là, le père prend ça un petit peu avec un grain de sel. Ah, il dit, ça doit être un tel là, qui aime ça jouer des tours et qui a décidé de venir vous faire peur parce qu'il savait que j'étais parti pour un certain temps. Ce qui fait que le père, il dit, s'il revient ce soir, il va avoir affaire à moi. Ce qui fait que le soir, justement, à l'heure du souper, eh bien, encore une fois, le cavalier se manifeste. Ils entendent encore marteler les sabots du cheval sur les rochers. Le père sort avec le fanal. Eh oh, ici, on est ici. Bien sûr, le cavalier passe tout droit, arrive devant le ruisseau, le franchit, arrive devant l'écurie, encore une fois, disparaît. Et là, ils entendent des murmures autour du camp. Le père fait le tour du camp, il voit absolument rien. Ce qui fait que là, il reste toute une nuit à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui peut bien arriver pour que je puisse voir avec mes enfants un cavalier sans tête et entendre des bruits autour du camp? Ce qui fait qu'il décide le lendemain matin d'aller voir la personne la plus instruite du village. Moi, je me rappelle, j'avais un professeur d'ethnologie qui nous disait que le James Bond de la tradition orale, c'est le curé, parce que c'est lui qui savait tout et qui dénouait toutes les intrigues et tous les mystères. Ce qui fait qu'il décide d'aller voir le curé. Le curé, dis-toi là, tu vends des chevaux, hein? L'autre dit oui. Il dit, t'aurais pas vendu un cheval à un tel? Il dit, oui, il me l'a pas payé encore. Ben là, il te le paiera peut-être jamais parce qu'il est décédé. Eh bien, il va falloir que tu te passes de son paiement. Puis c'est peut-être lui, finalement, qui vient te demander, finalement, paiement. Que tu lui donnes le cheval, il n'a pas pu te payer parce qu'il est au purgatoire, c'est tout ce qui lui manque pour aller au ciel. Eh bien, le père aurait répondu, si c'est rien ce qu'il lui faut pour aller au ciel, il peut bien garder le cheval, de toute façon, il ne paiera pas pareil. Il paraît que depuis ce temps-là, ils n'ont jamais revu le cavalier sans tête.
Wow, c'est toute une légende. Quand vous me parliez tout à l'heure de qu'est-ce qui fait une légende, je trouve qu'on retrouve absolument tout dans celle-ci.
Toutes les caractéristiques des légendes sont là-dedans.
Vraiment. Puis vous, cette légende-là, vous m'avez dit que c'est... bon, comme vous avez dit tantôt, c'est pas l'homme qui a vu l'homme. C'est quelqu'un de très près de l'histoire qui vous l'a raconté.
Absolument. Moi, ça m'a été... J'ai été informé de l'existence de cette légende-là par la fille... Comment dirais-je ça, de M. Laurien Girard, qui, lui, la tenait de son père, de deux de ses oncles et de son grand-père. Et d'ailleurs, quand je suis allé l'interroger, je lui ai demandé, est-ce que vous y croyez à cette légende-là? Il m'a dit, écoute, là, mon grand-père, mes deux oncles, mon père racontaient exactement la même histoire. Et d'ailleurs, quel aurait été l'intérêt de me mentir et de mentir à toute la famille pendant toutes ces années? Nietzsche, le grand philosophe, disait qu'il n'y a pas mensonge là où il n'y a pas intérêt à mentir. Je crois que dans cette légende-là, vraiment, il n'y a pas vraiment intérêt à mentir.
Absolument.
Et l'indice de vérité d'une légende, c'est toujours la sincérité du narrateur.
Oui, c'est sur ça qu'on se base, en fait.
Oui.
Donc, dans le cadre de nos recherches, si on désire en apprendre plus sur cette légende-là, on devrait, en fait, aller se renseigner directement à la famille Girard.
Aller voir M. Laurien Girard.
Parfait, j'en prends bonne note.
OK.
Merci beaucoup, M. Bergeron. Merci de tout ce que vous avez fait pour cet épisode. Très pertinent, puis vous êtes un très bon raconteur, donc on est très content d'avoir pu vous écouter raconter cette légende. Donc merci, et nous, de notre côté, on va poursuivre nos recherches.
Merci bien.
Maintenant, pour la suite de cet épisode sur la légende du cavalier sans tête, je vais essayer de rentrer en contact avec des membres de la famille Girard de Sainte-Jeanne d'Arc. J'ai envie de savoir ce que ça représente d'avoir une légende comme celle-ci dans une famille qui se transmet de génération en génération. Et qui sait, peut-être qu'on aura la chance d'apprendre de plus de détails sur ce qui s'est réellement passé en 1920 durant ces trois soirs d'automne.
Bonjour Mme Girard, mon nom est Vincent Pagé, je suis journaliste pour la télé du Haut-du-Lac. Je vous appelais parce qu'on travaille présentement sur une émission qui porte sur les mythes et légendes. Et récemment, j'ai parlé avec M. Bertrand Bergeron, donc vous voyez peut-être déjà où je veux en venir avec ça. J'aimerais beaucoup pouvoir vous parler parce que j'aimerais rencontrer des membres de votre famille pour parler de l'histoire du cavalier sans tête. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite là, à me recontacter. Sinon, là, j'essaierai de vous rappeler là, d'ici la fin de la journée. Merci, au revoir.
Pour commencer, j'aimerais ça, Monsieur Laurien, je peux vous appeler Laurien. C'est votre grand-père qui vous a raconté cette histoire. C'est quoi votre premier contact avec l'histoire du cavalier sans tête?
Oh, ben là, quel âge que j'avais, je ne sais pas, là. J'étais pas mal jeune, je pense, hein? Mais là, je ne peux pas te le dire, je ne sais pas. Peut-être que j'avais une quinzaine d'années quand tu m'as parlé la première fois.
C'est votre grand-père qui vous en a parlé?
Non, mon grand-père était décédé.
OK, père. C'est votre père.
Mon grand-père, il est né, il est décédé peut-être dans les années... 1925-1930, les années-là.
Okay.
Mais mon père est né en 1909. Puis lui, ben là, il était petit gars. Quand c'est arrivé, là, il était petit garçon. Il devait être peut-être un 12, 13, 14 ans, je ne sais pas.
Là. OK. Puis, qu'est-ce qu'il vous a raconté exactement? C'est quoi les détails qui ressortent de l'histoire?
Ben, les détails, fait, c'est qu'il nous a raconté que lui, il était dans un... Il avait, mon grand-père avait une terre à Saint-Gentac, je pense que c'est dans le rang 9. Là. Puis il y avait un camp, une espèce de camp de bois rond. Puis il était là avec une de ses sœurs et un autre de ses frères. Il était trois, je pense. Là. Puis lui, le grand-père, il était parti pour aller... il était allé au village, mais il était parti pour 3-4 jours. Peut-être plus loin que le village, mais il était allé quelque part, je ne sais pas où, peut-être à Saint-Bruno, dans ce temps-là. Ça se passait beaucoup de choses, je pense, à Saint-Bruno. Puis les autres étaient restés tout seuls. C'est là que c'est arrivé, ces choses-là.
C'est là qu'ils ont vu le cavalier pendant les...
Oui, c'est là qu'ils ont vu arriver quelqu'un. Les autres, ils pensaient que c'était peut-être leur père qui arrivait avec un cheval. Ils ont entendu arriver un cheval, des sabots. Puis là, je pense qu'il y avait un petit ruisseau. Puis, à un moment donné, mais ils ont sorti dehors, mais ils voyaient jamais la tête du personnage, tu sais. Le cheval, ils le voyaient, mais le cavalier, il voyait juste le haut du corps, mais pas la tête. Puis là, il entendait le cheval, puis ben, le cavalier, il a crié « Wow! » Dans ce temps-là, il faut arrêter un cheval, c'était « Wow! » C'est encore demain. Puis là, les autres, ce qui se passe là, puis ça a disparu. Parce que je me rappelle bien, c'est ce qu'ils disaient, ça a disparu. Fait que les autres, ils se demandaient ce qui se passait. Fait qu'ils sont rentrés dans le camp. Puis là, ça s'est mis à parler dehors. Fait que les autres, ils avaient peur, ils étaient jeunes, puis ils avaient peur, là, ce qui se passait là.
Une douzaine d'années, vous me disiez?
Oui, il y avait peut-être une douzaine d'années. Puis les autres, quel âge qu'il y avait, ça devait être autour de ça aussi, ça, c'est ouais. Les frères et les sœurs. Ça a duré, ça.
Jusqu'à ce que le père revienne.
Oui, jusqu'à temps qu'il revienne. Puis là, mon père, mon grand-père, il a dit ben oui, non, ça n'a pas de bon sens, ce que vous dites là, je vais après vivre vous. Mais non, ça se peut pas. Quand il va venir à soir, dans le voir qu'il soit. S'il vient à soir, là, on va le trimmer. Comme de fait, il est venu ce soir encore. Mais là, l'homme, il avait beau, il a entendu la même chose. Le cheval arrivait sur le cran, puis il entendait les sabots. Traversait dans leur ruisseau, puis encore haut. Puis là, mon grand-père est sorti dehors, puis là, il a bien vu qu'il voyait rien, il voyait pas la tête, comme les enfants lui avaient dit. Puis là, ça a disparu encore, puis ça s'est mis à parler en arrière du camp.
Comme les autres soirs.
Comme les autres soirs. Mais lui, il sortait avec course, puis il faisait le tour du camp, il voyait jamais rien. Donc là, je pense que ça a fait une couple de soirs de même. Puis Mané, il savait pas ce qui se passait. Fait que là, il est allé, je pense, si je me rappelle bien, il est allé dans discuter avec le curé de ça, ce qui se passait là. Il avait peur, là, tu sais, il était inquiet. Dans ce temps-là, il y avait des, on appelle ça, des prémonitions, je sais pas, là. Fait que Mané, le curé, il a dit, tu sais, il dit, le gars, là, un tel, là, il dit, tu connaissais bien, là, il dit, il est décédé. Ah ouais? Il dit, décédé? Ah oui, il est décédé. Il dit, c'est vrai, ce gars-là, il dit, vous devez un cheval, il ne me l'a jamais payé. Fait que là, apparemment, là, le grand-père, il aurait dit, ben, si c'est le cheval qu'il va avoir, j'y donne. Ça allait que ça avait arrêté là. Ça allait que le chevalier, là, le cavalier, il devait demander son cheval au grand-père, il y donne. En tout cas, c'est ce qu'on.
Puis, vous, quand votre père vous l'a raconté la première fois, ça a été quoi votre réaction?
Ma réaction, on était ça, on était pas inquiet, on était impressionnés de ça, tu sais. Mais il racontait tout le temps, toujours la même chose, tout le temps la même chose.
C'est ça, la version ne changeait pas.
Ouais. Il l'a raconté aussi.
Raconter la réaction de mon épouse.
Ouais.
Mon père, il est décédé en 1983. Maintenant, moi, je me suis marié avec mon épouse en 1973. Puis, j'ai eu le temps de le compter à mon épouse. Par contre, mon père l'a compté aussi à mon épouse pour un peu la...
L'initier.
Il comptait vraiment de sa part à lui. Puis, il lui avait compté ça. On était dans un camp en forêt. Sur le chemin de
Bowater.
Et il ne nous avait pas compté ça le matin, hein, en se levant. Il nous a compté ça le soir. Ça fait que mon épouse, quand il a eu fini de compter l'histoire, n'a pas dormi de la nuit.
je, comprends avec raison.
Oui.
Puis vous, c'est votre père aussi qui vous l'a raconté, l'histoire?
Oui. Je l'ai entendu plusieurs fois, l'histoire. Là. Peut-être 5, 6 fois, 10 fois, je sais pas. Mais c'était toujours pareil.
Oui.
Toujours la même histoire.
Puis, le cavalier en tant que tel, là, la personne là, que vous dites qui était décédée, là, c'est une personne qui a existé pour de vrai? Là,
oh, oui, oui, oui. Notre tante, Albertine, qui était là, dans ces moments-là. Elle est venue en visite. Venue en visite chez nous. Puis elle nous a conté l'histoire aussi. Elle l'avait vécu. Fait qu'elle nous a conté, puis c'était pareil à celle de mon père.
Votre tante Albertine qui était présente avec...
Elle était là, oui.
Elle était là, elle.
Était dans le camp.
Il était...
Trois.
Possiblement trois.
Elle était plus vieille que mon père. Mon père, c'est le dernier. Elle avait peut-être 14-15 ans.
Oui, peut-être 16-17,
on ne sait pas. Ouais.
Puis, moi, ce qui me fascine avec cette histoire-là, c'est que ça se soit passé dans le coin. Ça s'est passé à Saint-Jean-d'Arc.
Dans le rang 9.
Dans le rang 9, c'était ça ma prochaine question. C'est vous savez exactement où ça s'est passé, là?
Oh là!
Ben exactement. En tout cas, vous savez que c'est dans le rang 9.
Dans le rang 9, oui.
Dans le rang 9.
Je vais aller là avec mon cousin qui avait acheté cette terre-là, qui avait racheté cette terre-là. Et où c'est, là? Quand je suis allé avec mon cousin, il avait peut-être 20, 15 ans.
Ouais. Mais vous n'êtes jamais retourné voir sur les lieux de l'histoire où ce que ça s'est passé?
Non. Okay.
Maintenant, j'aurais peut-être une question pour Stéphanie et les filles. Plus le côté, qu'est-ce que ça représente dans le patrimoine familial d'avoir une histoire comme ça qui se promène? Qu'est-ce que... Ben d'abord, Stéphanie, c'est quand la première fois que tu as entendu cette histoire-là, toi?
J'étais tout petite. Je devais avoir 4 ans.
OK.
Puis je me rappelle que j'étais assis ses genoux à grand-papa. Puis il était vraiment particulier, mon grand-père. Là. Il avait tout le temps des chemises carottées, des bretelles. Puis il avait son plat de paparman ou ses pinottes là à côté. Puis je le trouvais impressionnant. Puis c'était un homme qui avait une force quand même.
Personnalité.
Une personnalité forte. Puis physiquement, il était imposant aussi. Là. Quoique c'était pas un grand homme, mais à l'époque, c'était un grand homme, tu sais. Parce que les générations continuent à grandir. Puis je me rappelle avoir été vraiment impressionnée par cette histoire-là, au point où j'ai redemandé à mon père de me la raconter, tu sais, plus vieille. Puis plus tard, j'ai suivi des études en histoire. Puis la tradition orale m'a beaucoup intéressée. Puis j'ai lu plein de recueils d'histoires traditionnelles, les Philippe Auvert de Gaspé. Bon, tu sais, il y a vraiment un beau cheptel d'histoires, mais pas d'histoires qui avaient cet enracinement-là, puis qui était très proche aussi là, des gens que je côtoyais. Puis j'ai fini par en glisser un mot à Bertrand Bergeron, en fait, qui est venu recueillir l'histoire de mon père. Puis j'ai organisé aussi des séances de... j'ai demandé à mon père de raconter l'histoire à mes enfants. Tu sais, je trouve que c'est une histoire qui est vraiment propre à la famille Girard. Je la trouve importante. Puis
c'est ça qu'on parlait avant de commencer à tourner, c'est que il y a vraiment une proximité hein, avec l'histoire. Tu sais, c'est pas quelque chose qui... Bon, ça date des années 20, mais il y a une proximité dans le sens où ce que vous avez un lien direct avec la personne à qui c'est arrivé.
Ouais.
Puis, est-ce que vous trouvez que ça représente un héritage dans votre famille? Comment vous voyez ça, cette histoire-là, dans la famille? Est-ce que... Y a-t-il un moment où ce que chaque personne dans la famille, à un certain âge, se font raconter cette histoire-là? Est-ce que c'est une tradition, par exemple, de raconter cette histoire-là?
Je ne sais pas si mes sœurs en ont parlé. Je ne me rappelle pas mes sœurs les plus vieilles. Les trois plus vieilles de la famille, c'était mes sœurs. Mais les autres, je ne sais pas s'ils en ont déjà parlé, les autres. Il faudrait que j'en parlerai à ma... C'est une que je suis plus proche que les autres, ma sœur Yvonne. Là. Je vais en parler de ça. Si les autres, ils ont eu connaissance de ça, ils ont sûrement eu connaissance de ça. Mon père a sûrement en parlé quand il était à la maison. Mais je ne sais pas. Nous, on a discuté ensemble de temps en temps, mes frères. Là. Ça.
Est-ce qu'ils ont transmis...
Oui, si on transmis ça
de la même manière.
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Mais
toi, oui.
Oui, oui, oui. Moi, mes enfants connaissent l'histoire.
Oui. Il y a
plusieurs fois qu'on l'a
dit. C'était important pour vous?
Oui. Est-ce qu'ils croient ça, ben, moi, j'y crois. Mais est-ce que les autres y croient? Je ne sais pas. On ne pose pas la question.
C'est génial. J'adore ça. Je trouve que c'est plaisant comment vous êtes capable de le transmettre justement de génération en génération. Est-ce que c'est un souhait pour vous que ça perdure, cette tradition-là, de que l'histoire reste dans la famille,
ben,
à quelque part?
Bien, qu'elle reste là. C'est quand même, c'est quelque chose qui est arrivé.
Oui.
Ça n'a pas été inventé, là, c'est arrivé. Mm. C'est une histoire de famille, puis je tiens à ce que ça se perpétue.
Hey, je te dis que c'est beau, les rénovations qu'ils ont faites dans l'aréna. Vraiment. Ouais. C'est qui? Ma blonde. Elle vient de m'envoyer le compte de taxes municipales pour notre maison, là.
Ouais.
On trouve ça toujours cher, hein?
On trouve ça cher, mais si on a un beau complexe sportif rénové comme ça, là, ben c'est une partie de ton argent qui a servi à ça. Mais le plus gros de l'argent, là, il vient de nos entreprises. C'est 1,2 beau million de dollars qui ont été investis dans ce projet-là.
Ah ouais, Coron, on patine!
Ouais! J'y ai dit, hein.
Ben, c'est pour ça que c'est important d'encourager nos commerces locaux.
Ben oui. C'est nos commerces qui commanditent nos jeunes qui font du sport, nos festivals, puis tout. Non? Alors, chaque année, là, c'est 325 000 $ en commandite. Puis pour notre hôpital, là, c'est en moyenne 200 000 $ par année.
C'est un gros plus pour nous autres. Faut vraiment que j'arrête d'acheter sur Amazon.
Ben oui. La prochaine fois que t'as besoin de quelque chose, demande-toi si tu peux l'acheter ici, dans un commerce local. Ah ouais, Tremblay, parti!
Y aller, là!
Non.
J'y allais?
Je le sais que tu y allais.
Les patins me chatouillent.
Tellement, là, mon gars, là. Gâche notre talent. Ma mère qui est là.
Bonjour, mon nom est Émilie Gaudreau, je suis copropriétaire de Délices du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est la belle saison qui arrive. On commence à voir déjà beaucoup de VTT se promener dans les sentiers. Les producteurs de bleuets, on souhaite vous faire un petit rappel. Nous souhaitons vous remercier de demeurer dans les sentiers afin de s'assurer de ne pas endommager des terres qui pourraient être en dormance ou encore sur le point de faire une production fruitière. Nous, les producteurs, on travaille tellement fort pour vous produire des super bons bleuets. C'est important de ne pas oublier une chose, plus de fruits au champ, plus de confiture pour vos déjeuners le matin. Merci de votre respect et bonne saison à tous.
5, 4, 3, 2, 1, je t'approuve du backbone!
Tu rêves d'un beau jardin pour épater tes voisins, mais tu sais pas comment faire, t'as jamais eu le pouce vert. T'as reçu à ta porte un bac à compost. Le décompte est lancé, on se met tous à composter.
Et rappelle-toi que
le plastique, c'est tout. Ta bouffe passe ses dates, swing ça dans le bac. Le plastique, c'est toujours non. Pis ça, c'est sans exception.
5, 4, 3, 2, 1, je t'impose du backbone.
On jette pas tout là-dedans.
Ton huile à moteur ou un vieux ventilateur. Le verre et le métal, c'est pas la place idéale. Les mousses de sécheuse, les boyaux de balayeuse. Pis c'est pas un bac à canettes pour des restes dans l'assiette.
Et rappelle-toi que
le plastique, c'est toujours non. Pis ça, c'est...
Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis.
Pour t'aider à identifier tes forces,
faire valoir ton expérience,
ta sagesse,
ton potentiel.
Nous sommes là.
Pour encadrer ta démarche,
trouver de nouvelles pistes,
identifier ce qui te motive vraiment.
Pour t'aider à réseauter,
accéder au marché caché de l'emploi,
prendre part à un milieu actif.
Nous sommes là.
Intégrer le travail après une période de vie plus difficile,
après un moment de réflexion,
ou si tu veux changer ta situation.
Nous sommes là.
Pour relever les défis,
malgré les limitations,
les doutes
ou les différences.
Pour identifier tes rêves,
faire preuve d'audace,
oser aller plus loin.
Trouver ton emploi
avec nous.
Ici, c'est possible.
La tradition orale est quelque chose qui s'est malheureusement perdu avec le temps et l'évolution de nos moyens de communication. Vous serez d'accord avec moi pour dire que les discussions sur le perron de l'église après la messe du dimanche se font de plus en plus rares. Cependant, et aussi cliché que ça peut sonner, je fais partie des personnes qui croient qu'il y a quelque chose qu'on ne peut aller chercher ailleurs autre qu'en prenant le temps de s'asseoir et de discuter. C'est avec cette idée en tête que j'ai décidé d'aller rencontrer des citoyens de longue date du village de Saint-Jean d'Arc pour leur parler du cavalier sans tête. Bonjour messieurs, merci de prendre le temps de venir me rencontrer aujourd'hui, c'est super apprécié. Donc, dans le cadre de notre émission « Oui dire sur les mythes et légendes », on se promène de municipalité en municipalité selon les histoires qu'on a entendues. Puis, on a une histoire qui s'est passée à Saint-Jean-d'Arc. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire du cavalier sans tête?
Pas dans mon cas, puis non. C'est pas dans le cas non plus.
Cavalier sans tête, ça m'a l'air fou, pas mal.
Oui, hein? Ben, ça sonne un peu bizarre. Hein? Puis, la première fois que je l'ai entendu aussi, je trouvais ça étrange. Ouais. Mais c'est normal que vous ne la connaissiez pas, cette histoire-là, parce que c'est une légende qui date de là, presque 100 ans. Là. Donc, ça fait un petit bout quand même. Puis aussi, c'est une légende familiale. Comme je vous disais un peu tantôt quand on discutait, c'est une légende qui appartient à la famille Girard. La famille Girard qui a habité à Saint-Jean-d'Arc pendant une époque, puis qu'après ça, qui s'est peut-être déplacé là, dans d'autres municipalités. Donc, c'est une famille qui. Une légende, en fait, qui est restée dans cette famille-là. Qui s'est pas ébruitée. On n'en a pas entendu parler beaucoup dans la région. Mais la légende va comme suit, je vais vous la raconter. Ensuite, vous me direz ce que vous en pensez, puis on pourra jaser un petit peu par la suite. Ça vous va? Mm-hmm. L'histoire du cavalier sans tête, en fait, elle est bien simple. C'est l'histoire de trois enfants. Puis à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais revu le cavalier sans tête. C'est ça, l'histoire du cavalier sans tête. Puis ce que je trouve plaisant avec cette histoire-là, c'est que justement, ça s'est transmis de génération en génération, puis l'histoire est toujours restée pareille. La version reste la même. Puis on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est pas vrai. Mais en tout cas, il est allé voir le curé, puis après avoir dit, ben, si c'est juste ça qui manque pour aller au ciel, ben, j'y donne le cheval. Fait que c'est une histoire qui s'est passée à Saint-Jean-d'Arc, dans le Rhin.
Parce que les curés, dans le temps, ils en venaient
large. Ben ouais, c'était eux autres qui renaient.
C'était eux qui renaient tout.
C'était, ouais. c'était le maire, c'était le magasin général, c'était... Ben, c'est eux autres qui décidaient.
Ben, ouais. C'était comme ça, c'était vraiment... Non, tu sais, on voyait ça dans le Séraphim, on disait, maudit, c'est tout, c'est de la dictature. Ben ouais. C'était ça.
Parce que je me souviens qu'au magasin Charles-Boulienne, aussi, c'était six logements.
Oui. Il y avait un magasin là-dedans?
Oui. C'était le principal magasin de Saint-Jean-d'Arc.
Arrête donc.
Ils vendaient la menace du grand mort, la menace d'un tonneau. Dans le panneau de la rareté, il y avait des coupons dans le temps.
Oui.
Tu n'avais pas ce que tu voulais. Le curé en chair avait dit, Charles Boulian a reçu un drôme de... Un drôme de sirop. C'est là qu'il vous donne d'avoir. Vous pouvez aller vous en chercher.
C'est
ça,
il faisait la publicité.
C'était le curé décidait tout.
À l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun moyen de communication autre. Mais seulement dans la messe, c'est là qu'il y avait joué. Soit à la messe, ou soit en sortant sur le perron.
Il n'y avait aucune instruction. Il n'y avait pas
d'instruction, puis pas de moyen de communication.
Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait rien.
C'est pour ça que ça se passait là.
Puis. Je trouve ça intéressant que vous dites ça parce que c'est ça qu'on essaie de faire avec cette émission-là. C'est que la tradition orale, donc c'est ça, dans le temps, les histoires, ils se créaient puis ils se transmettaient juste en parlant comme ça. T'sais. Fait que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu, on essaie un peu de recréer ça. T'sais. Les gens au magasin général là, qui font la file ou bien au café, qui fumaient la pipe puis qui se berçaient. Là, puis,
Ça jouait aux cartes.
Ça jouait aux cartes. Puis c'est là que les, oui. C'est là que l'histoire se racontait.
Ben, beaucoup. Je me souviens beaucoup, mais mettons, à la sortie d'église à l'époque, ça jasait beaucoup.
Ben oui, il vendait des affaires.
Comment ça s'appelait ça?
La vente de la criée.
C'est quoi, c'est la vente de la criée?
Des cochons, des poules.
En fait, c'est comme un marché aux puces, si on veut. Oui. Aujourd'hui, on met ça à l'époque, ça n'existait pas. Il amenait les affaires à l'église, des cochons, des poules, des affaires à vendre. Quand ils sortaient dehors après, eux des volants, là, c'est crié. Ils criaient ça, puis le monde, OK, vous m'en prendre deux, de m'en prendre deux, des cochons, ça, ça allait. Moi, j'ai pas vécu ça, mais j'en ai parlé.
Moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu, oui.
Tout avec ça.
On l'a crié, oui.
L'Église essayait beaucoup de contrôler un peu ce qu'ils disaient.
Vraiment.
Tu sais, on entendait des histoires là, du diable.
Ah,
oui, on en avait entendu
des histoires. Curé Tremblay, il parlait. Il avait une voix, c'était un voix imposant. Luther puis Voltaire. C'était des gars.
Ah,
oh,
ouais.
Et toi, as-tu connu le curé Boulanger? Non. Le curé qui faisait des miracles.
Non, c'est le curé Adolphe.
Adolphe Tremblay.
Il faisait des miracles.
Il faisait des miracles.
Oui. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, effectivement, il a fait quelques miracles.
Ouais. Ben oui, alors. Ouais. Comme quoi?
Il était curé à
Saint-Eugène.
Saint-Eugène, puis il était à Sainte-Marguerite-Marie. Peut-être Saint-Eugène, oui.
Puis c'était Saint-Élisabeth de Pau.
Oui, mais c'est comme des miracles, comme quoi, à peu près, il
guérissait. Comme moi, quand j'étais jeune, non, j'ai eu la poléo. J'étais supposé partir pour l'hôpital de Chicoutimi, puis il passait dans Saint-Ormain. Il dit à ma mère, il a donné une médaille. Il dit, mettez ça dans l'eau, puis il dit, frottez-le avec ça, puis il n'y aura pas besoin d'aller à l'hôpital. Puis je suis pas allé.
Ben oui, là donc.
Oui.
Wow.
Pour des gens qui sont pour mourir, à un moment donné, là, c'est arrivé à quelques reprises. On dit des miracles, tu sais, à un moment donné.
C'est ça, mais c'est un peu la même chose. Il faut y croire ou on y croit pas.
Oh, c'est, ah, oui,
ben,
c'est ça.
Mais souvent, c'est la confiance, parce que, tu sais, c'est la confiance.
Faut que je sois vraiment, comme il dit, vraiment croyant.
Le gars, quand il avait parlé, Marthe Savard, c'était perdu.
Oh, oui.
À Vauvert, là. Il avait été curé Tremblay, tu sais, là, il avait été le voir, il dit, on force pas volonté du bon Dieu.
Le gars, curé Tremblay, c'est...
Le grand jour. Après ça, ils ont été voir le curador. Le curador, il dit, allez-y, s'ils l'ont pas trouvé, même vous arrivez, il dit, venez me chercher. Puis quand les gars ont arrivé là-bas, il l'avait trouvé.
Il l'avait trouvé.
Tu sais, les curés aussi, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire du bal musette.
Oui.
Ouais.
Ah, pas moi.
Mais
ouais, non.
Oui, c'est... À l'époque, les gens dansaient, tu sais, c'était la danse, tu sais, on sortait, c'était un peu l'activité.
La danse, c'était défendu.
C'est ça. Après minuit, tu n'avais plus le droit de danser, sinon tu dansais avec le diable.
Ouais.
Puis il y a eu plusieurs histoires au Québec, tu sais, les histoires par rapport au diable.
C'est cambo, c'est le cambo, le gars dansait ça. Le cambo, pas le cross-coup, mais...
Le cambo, l'autre côté de
Delbo. L'autre côté de Delbo, oui, en Victoria. Il paraît que le gars dansait sur le toit après. Il disait ça. La mère a dit ça. Oui, oui.
À quel endroit ça?
À la sortie de Delbo.
C'est la 30e avenue. En allant vers Albanel. La 30e avenue, tu passes tout droit. Puis en allant vers Albanel, tu tournes à gauche.
Il y avait une grosse salle en rond, une grosse bâtisse en rond, une salle de danse. C'était. Ben moi, quand j'ai connu, c'était toi Nimbo qui avait ça.
Ouais.
Mais avant ça, il y avait là, puis ma mère, elle avait là, mais quand elle était jeune, il disait que le diable dansait sur le toit de cette bâtisse.
Ça, c'était pour pas qu'il rentre trop tard.
C'est ça. Mais c'est ça, en fait, puis des histoires comme ça, il y en a plein dans la région. Mais c'était justement, c'était l'église, c'était les curés qui utilisaient le diable pour dire, hey, après minuit, là, c'est assez. Mais messieurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me parler aujourd'hui. C'était super apprécié. J'ai adoré vous entendre. Puis je trouve ça fun parce qu'on voit que on pose quelques questions, puis il y a des histoires qui remontent, puis il y a des trucs, il y a des liens qui se font, puis c'est pas trop long. Puis c'est ça la tradition orale. Hein. C'est qu'on prend le temps de se parler, puis le parcours, puis vos historiques personnels font en sorte que je vous ai parlé de certaines choses, puis il y a des souvenirs qui vous sont ressortis, puis j'ai adoré vous écouter. Fait que merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Je me trouve présentement dans le rang 9, tout près de l'endroit où le cavalier aurait été aperçu 3 soirs consécutifs il y a maintenant 100 ans de cela. On n'aura peut-être pas réussi à trouver toutes les réponses par rapport à cette histoire, mais on aura découvert à travers cet épisode une légende qui, comme M. Bergeron l'a mentionné plus tôt, comporte tout ce qu'on recherche d'une bonne légende. On aura aussi rencontré la famille Girard, que je tiens d'ailleurs à remercier pour notre rencontre. C'est tout pour ce premier épisode de Ouï-dire. On a encore plusieurs histoires à vous raconter, donc j'espère pouvoir vous compter parmi nous pour la suite.